Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, grâce à Mzati.
Sommaire de ce journal, au nord Kivu, la cité frontalière de Ishasha, à 60 km de Rutshuru centre, est tombée entre les mains des rebelles du M23 cet après-midi. Une situation qui intervient à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, obtenu par l'Angola. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa propose un budget de plus de 10 milliards de dollars américains dans son programme quinquennal. Daniel Bumba l'a fait savoir hier à l'occasion de l'investiture de son gouvernement au cours d'une plénière convoquée en session extraordinaire. Notre invité ce soir est le docteur Michel Mouvoudi, écrivain et formateur. Il parle de la formation sur le leadership et le développement organisée à Bukavu par l'ASBL Kesho Congo en faveur des 250 jeunes de cette ville. Ces nouvelles et tant d'autres vous seront développées dans quelques instants. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Au nord Kivu, la cité frontalière de Ishasha est tombée entre les mains des rebelles du M23 ce dimanche en début d'après-midi. C'est dans le groupement de Binza, à 60 km de retour au centre. Cette chute intervient après quelques heures de combats ayant eu lieu dans la matinée à Buganza, dernier verrou entre les rebelles et les Wazalendo. Ainsi donc, la majorité des grandes agglomérations du territoire de retour sont maintenant sous occupation rebelle. Cette occupation intervient à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. C'est dimanche obtenu par l'Angola entre la RDC et le Rwanda le 30 juillet dernier à Luanda. Denis Lukeso.
La résistance des Wazalendo à Buganza, à 12 km de Ishasha, ne fut que de courte durée avant qu'ils ne décrochent, témoigne un habitant de Nyamilima. Le combat à Buganza, localité qui constituait le dernier verrou pour les M23, n'ont duré que 4 heures et les Wazalendo ont fini par décrocher, ajoute un acteur des droits humains sur place. Selon lui, les combattants n'ont pas pu faire face à l'ennemi qui était visiblement déterminé à prendre Ishasha avant l'entrée du cessez-le-feu ce dimanche soir à minuit. À Ishasha, comme à Nyamilima, hier samedi, le M23 est entré sans combat. Dans cette région de Binza, l'armée avait dégarni ses positions depuis plusieurs mois, déplorent les habitants. Ces derniers disent que les Wazalendo seuls n'avaient pas la capacité physique et logistique pour faire face à la rébellion qui a une supériorité numérique en termes d'hommes et d'armement. Jusqu'à présent, aucune communication de l'armée régulière n'a été faite à ces propos. La chute de Ishasha s'ajoute ainsi à la longue liste des agglomérations importantes du territoire de Rutshuru, occupées par les M23 dans les chefferies de Bouicha et Buito. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans la ville de Butembo, toujours au nord Kivu, 5 civils ont été assassinés en une semaine seulement par des hommes armés non identifiés. Le dernier cas en date est celui d'un homme d'une trentaine d'années, ancien journaliste de la radio Upendo Kivu Butembo, assassiné par balle par des inconnus la nuit de samedi à ce dimanche. Son corps a été retrouvé jeté dans une concession à Fourou dans la partie nord de la ville. Face à la montée de la criminalité dans la ville, le réseau pour les droits de l'homme REDO appelle les autorités à fournir plus d'efforts pour sécuriser la population. Mouindo Asivigno, coordonnateur de cette structure de défense des droits de l'homme, est joint par Guylaine Kassassia.
Les REDO regrettent la recrudescence de la criminalité à ville de Butembo, caractérisée par les assassinats ciblés. À moins de 10 jours, 5 cas ont été enregistrés. Le dernier cas est l'assassinat du journaliste Gisle, tué dans la nuit du 3 au 4 août 2024. Avant-hier, c'était l'assassinat d'une vieille dame de 75 ans. Au début de la semaine, c'était l'assassinat d'une jeune fille mineure étranglée et jetée à côté d'une église. La fin de la semaine passée, c'était l'assassinat des taximens, des bandits ont emporté sa moto. Notre taximen a été poignardé au début de cette semaine. Il poursuit les soins. La semaine passée, un autre journaliste a été agressé. C'est pourquoi nous appelons les services de sécurité de multiplier sa vigilance afin de protéger la population et ses biens. À l'auditorat militaire, de diligenter les enquêtes pour dénicher les auteurs et les référer devant le tribunal. La population de rester en alerte à dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité.
Nous restons dans cette région pour vous dire qu'une hausse des prix des certaines denrées alimentaires est observée sur les marchés de Mangourijipa, chef-lieu du secteur de Bapéré dans les territoires des Lubero. Principale cause de cette situation, les attaques des rebelles ADF qui ont rendu inaccessibles plusieurs villages qui approvisionnaient Mangourijipa et ses environs. Une situation qui rend la vie très chère pour les populations locales. Plus de détails avec Guylaine Kassassia.
Plusieurs villages qui ravitaillent Mangoredji par chef-lieu du secteur de Bapéré sont actuellement la cible des attaques de rebelles ZADF. Les habitants y affouillent, il n'y a plus d'activité agricole, avec pour conséquence la hausse des prix à Mangoredji par centre qui connaît une concentration des personnes déplacées. Ainsi, par exemple, une main de bananes plantant qui s'est vendue auparavant à 1000 francs congolais coûte aujourd'hui 3000 francs. Un problème pour tout Mangoredji par, comme le dit Samuel Kaini, président de la société civile du secteur de Bapéré.
L'extraction des minéraux, c'est parmi les grosses activités qui alimentent le secteur de Bapéré. Les gens n'extraient plus des minéraux parce qu'ils ont peur. Les gens ne partent plus au champ. Le concept de manioc, la quantité qui devrait se négocier à 5000 à 2500, aujourd'hui c'est 10000. Vous comprenez que la vie est devenue chère et pourtant il n'y a pas d'activité génératrice de recettes. Dans des familles d'accueil facilement, on peut enregistrer 15, même 20 personnes. Nous appelons le gouvernement de venir en aide à tous ces déplacés et aussi à rétablir la paix. Le grand problème, c'est pour ceux-là qui on a incendié leur maison.
Pour rappel, c'est depuis le mois de juin dernier que les rebelles des ZADF ont multiplié les attaques dans plusieurs villages du secteur de Bapéré, causant ainsi le déplacement des populations et dont la plupart vivent actuellement dans la ville de Butembo. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
L'actualité nous conduit dans la province de la Tchopo, où le ministre de la Justice et garde des Sceaux relance le processus d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani. Constant Mutamba a ordonné samedi l'indemnisation des 5 victimes certifiées par un groupe de personnes qu'il a mandaté après la suspension des anciens animateurs des Frivao. Le processus va se poursuivre en attendant la nomination par ordonnance présidentielle des nouveaux animateurs de cet établissement public. C'est ce que nous explique à Kisangani Jacques Mkonkole.
Ces personnes mandatées sont des membres du cabinet du ministre des tutelles qu'il a laissé sur place à Kisangani après la célébration du 2e anniversaire du jeune coquin. Il leur a associé quelques accompagnateurs de victimes dans leur démarche visant l'obtention de l'indemnisation. Selon Jean de Dieu Kilima, l'un d'eux, ils ont été mandatés verbalement par le ministre en attendant la mise en place d'une structure provisoire de gestion dans un bref avenir. Désormais, souligne-t-il, pour indemniser les victimes, une enquête minutieuse doit être menée sur le terrain. Jean de Dieu Kilima explique la nouvelle procédure préalable à l'indemnisation.
Il y a l'OPJ, il y a les gens qui avaient enquêté, et puis ces rapports-là étaient donnés au ministre. Le ministre ordonne à la banque, et je pense que Monseigneur Moura Bouzouka maintenant, dans leur liste, c'est lui toujours qui engage officiellement Frivao à la banque, et puis le procureur appelle Monseigneur Moura pour ordonner les décaissements de fonds.
Selon toujours Jean de Dieu Kilima, seules les personnes identifiées physiquement après enquête seront indemnisés. Actuellement, une somme forfaitaire de 2 000 $ est remise à chaque victime éligible à l'indemnisation. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa propose un budget de plus de 10 milliards de dollars américains dans son programme quinquennal. Daniel Bumba l'a fait savoir ce samedi à l'occasion de l'investiture de son gouvernement composé de 10 membres au cours d'une plénière convoquée en session extraordinaire. On écoute un extrait du discours programme du gouverneur Daniel Bumba au micro d'Étienne Lissumbo.
Le programme j'ai l'honneur de vous présenter ce jour est en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source des engagements majeurs ainsi que des 3 initiatives présidentielles prioritaires contenues dans le programme 2024-2028 du gouvernement central. À cet égard, notre programme dénommé Kinshasa et Zobonga est structuré en 5 chapitres qui se présentent de la manière suivante. 1. État des lieux. 2. Orientation stratégique. 3. Axe de gouvernance. 4. Cadre macroéconomique et financement. 5. Mécanisme de mise en œuvre et suivi évaluation. Concernant l'état des lieux, la ville de Kinshasa, capitale et siège d'institution de la République, fait face à de nombreux problèmes suivants. L'emploi, surtout des jeunes, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, la voirie et la mobilité, la gouvernance financière et administrative, l'aménagement, l'urbanisme et l'habitat, l'éducation et la santé, les infrastructures de base relatives au transport, à l'eau et à l'électricité.
En réaction, les députés provinciaux de Kinshasa jugent réaliste ce programme du gouverneur Daniel Bumba. Toutefois, il formule quelques recommandations au gouverneur pour mener à bien son mandat. Il s'agit notamment de prendre à bras le corps les questions des salubrités et des sécurités. N'est-ce pas, Étienne Lissumbo?
Dans la suite des recommandations, les députés provinciaux de Kinshasa invitent Daniel Bumba à faire preuve de beaucoup de volonté pour changer les choses. L'un d'eux, Nicolas Wemakoy.
Il y a un sérieux problème d'érosion. C'est une commune érosive et il va falloir que le gouverneur puisse avoir une bonne politique d'urbanisme et d'habitat.
Le député provincial Steve Moulumba, quant à lui, souhaite que le gouverneur prenne en compte les observations faites par les députés provinciaux.
Je crois que vous avez été là, vous avez écouté, vous avez vu les préoccupations qu'ont soulevé les députés provinciaux. Je suis sûr et certain que le gouverneur et son équipe ne va pas se botter cela en touche, il va prendre tout ça en compte pour pouvoir les mettre en application.
Les élus de Kinshasa souhaitent vivement que le gouverneur puisse réellement mettre en œuvre son ambitieux programme.
Pendant ce temps, des ONG des droits de l'homme réunies au sein de l'Assemblée provinciale citoyenne de Kinshasa recommandent au gouvernement souminois de financer dans un bref délai l'organisation des élections des bourgmestres des communes dans la suite logique du processus électoral en cours. Cette structure a fait savoir cette recommandation hier lors de sa plénière tenue au quartier Kingabwa dans la commune de Limété. L'un des cadres de cette assemblée, Bertin Kaninda Tioi, explique que la tenue de ce scrutin va débloquer la gestion au niveau de la base et permettre à la province de faire face aux défis. Il appelle cependant les Congolais à participer à la gestion de la chose publique en interagissant avec les conseillers communaux. Bertin Kaninda Tioi le dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous étions là pour expliquer la gouvernance participative. Comment est-ce que la population doit participer pour le bien de leur communauté? Comme maintenant il y a la présence des conseillers communaux, comment ils peuvent interagir avec ces conseillers communaux pour booster le développement de leur quartier ou de leur commune? 9 mois après, nous avons vu que rien ne marche et maintenant nous avons cherché à savoir pourquoi la population ne s'implique pas pour booster le développement de leur quartier ou de leur commune. Nous avons relevé ces défis pour voir qu'il y a un blocage au niveau des conseillers communaux, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas le temps de travailler et surtout qu'ils sont avec les bourgmestres nommés. Donc ces bourgmestres nommés font obstacle aux conseillers communaux de travailler. C'est ce que la population est en train de demander, qu'il y ait les élections des bourgmestres. En tout cas, en ce moment-là, ils auront des comptes à rendre à la population. Il faut aller jusqu'à la fin. D'ailleurs, ça ne demande presque rien pour que ces conseillers communaux puissent élire les bourgmestres. Nous voulons travailler dans la main pour enfin booster nos communes d'aller de l'avant.
Notons que la plénière de l'Assemblée provinciale citoyenne de Kinshasa était axée sur le thème gouvernance participative. Merci d'écouter Radio Okapi dans le Tanganyika. Sachez que la délégation des membres du Conseil de sécurité de cette province séjourne depuis ce samedi dans le territoire de Manono. D'après des sources sur place, elle va s'enquérir notamment du dossier de l'évasion de tous les détenus de la prison centrale de Manono à la mi-juillet. Pour la société civile de ces territoires, c'est l'occasion d'établir les responsabilités et sanctionner les coupables. Akalemi, une correspondance de Paul Mounanga.
À en croire les porte-parole de la société civile de Manono, 98 détenus se sont évadés et la prison centrale est restée vide. Mais les forces de sécurité ont réussi à arrêter 3 évadés jusqu'à présent. L'abbé Moïse Kilouba espère que la présence de la délégation des membres du Conseil de sécurité provincial du Tanganyika venu de Kalemi va aider à établir les responsabilités au sujet de cette évasion spectaculaire. Il signale aussi la recrudescence des cas de vol dans la cité de Manono depuis l'évasion des détenus.
Nous demandons à la délégation qui est venue à Manono de trouver des solutions palpables, c'est-à-dire de trouver qui était commanditaire de cette évasion. Ces prisonniers-là n'avaient pas seulement un même rang, une même culpabilité. On trouve des bandits à main armée, des meurtriers. Il y a aussi d'autres situations d'infraction qui ont fait que Manono n'a pas la quiétude. Les cas de vol sont devenus vraiment réguliers.
Pour rappel, dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier, tous les détenus de la prison centrale de Manono se sont évadés après avoir creusé un tunnel. Kalemi Paul Mounanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, dans un document daté du 26 juillet qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche 4 août, le général Ali Darassa Mahamat, chef d'état-major de la coalition des patriotes pour le changement CPC, déclare mettre fin à toutes les hostilités sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Le pape François appelle ce dimanche le Venezuela à chercher la vérité après la réélection contestée du président Nicolas Maduro et à éviter la violence. Le pape, qui s'adressait à la foule sur la place Saint-Pierre au Vatican, a envoyé un appel sincère à toutes les parties à chercher la vérité et à éviter tout type de violence, ajoutant que le Venezuela traversait une situation critique.
L'invité.
On a du potentiel et ce potentiel est fait pour être amélioré. Cette dimension de s'améliorer afin d'être capable de devenir rentable et d'impacter les autres. C'est le message essentiel de la formation sur le leadership et le développement personnel qui se tient à Bukavu, initiative de l'ASBL Kesho Congo en faveur des 250 jeunes de Bukavu. Objectif, susciter l'engagement de la jeunesse à transformer la vie de la société, impacter les autres et investir dans les générations futures. Docteur Michel Mouvoudi, écrivain et formateur, s'entretient à ce sujet avec Rachel Kessembangou.
Docteur Michel Mouvoudi, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi former les jeunes sur le leadership et le développement personnel? Et pour commencer, c'est quoi le développement personnel?
C'est quoi le développement personnel? Mais j'aime bien rigoler, c'est le développement personnel. C'est simplement prendre conscience qu'on est un être humain et donc qu'on a du potentiel. Ce potentiel est fait pour être amélioré. Et donc, le développement personnel, je le résume dans ces dimensions qu'il vous faut pour pouvoir vous améliorer afin d'être capable, premièrement, de devenir rentable vous-même, mais aussi d'impacter les autres. Mais j'ai ciblé principalement les jeunes au vu de la tendance mondiale, notamment qui montre que, prenez des continents comme l'Afrique, des pays comme la RDC, les jeunes vont devenir prépondérants. Ça veut dire les jeunes vont être la moitié de la population africaine. En République démocratique du Congo, les jeunes vont représenter entre 55 et 60%. Et donc, c'est une masse qui peut faire bouger les lignes en matière de développement. De l'autre côté aussi, ce que j'ai vu durant les 10 dernières années, c'est qu'en fait, on assiste quand même à une émergence d'une jeunesse qui n'a pas encore pris conscience qu'en fait, elle est la clé du développement de ce pays.
3 jours suffisent-ils pour former sur le leadership et sur le développement personnel? Quels résultats vous attendez de ces jeunes?
3 jours, évidemment, non. Cette formation, c'est le début. J'ai expliqué d'abord le concept de base. J'ai dû réveiller la conscience. J'ai révolté les jeunes. Et ce que j'ai compris, c'est que les gens m'ont dit à la sortie, franchement, après cette formation, on se réalise qu'on a perdu du temps. On se réalise qu'on peut aussi devenir des hommes, des femmes capables de changer notre société, notre écosystème. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, tout développement est un processus. Vous n'allez jamais voir un développement qui se fait au tic au tac. C'est un processus, mais qu'il faut maintenir, dans lequel vous devez jouer un rôle. Ça veut dire qu'il faut maintenant définir ce qu'on veut devenir. Il faut fixer des objectifs. Il faut investir en soi à travers notamment la formation. Mais le processus de développement va être un processus ad vitam. C'est toute la vie qu'on va continuer à gravir escalier après escalier. Ce que j'attends, c'est que justement qu'il y ait de la transformation. Rappelez-vous que quand j'ai introduit cette formation, j'ai parlé des économies positives. En fait, les économies positives, c'est avoir des personnes qui commencent d'abord à se transformer, mais qui impactent les autres. Ce que j'attends, moi, c'est demain avoir des jeunes au sud de Kivu, qui commencent d'abord à changer totalement leur mode de vie, qui commencent à participer à l'amélioration de la vie collective, mais ces jeunes aussi, sur qui on peut compter pour dire, écoutez, au sud de Kivu, quand vous allez retrouver la création des richesses, les jeunes sont au cœur. Et ça, pour moi, c'est fondamental si nous voulons voir notre pays changer.
Docteur, comment ces jeunes doivent-ils quitter de la théorie à la pratique, c'est-à-dire, quelles stratégies doivent-ils mettre en place pour arriver à atteindre le leadership et aussi se développer personnellement?
Il y a 4 stratégies. La première stratégie, c'est il faut absolument taper sur un point qui est clair, pousser les jeunes à avoir une vision. On ne peut pas s'engager aujourd'hui à avancer sur un chemin quand on ne sait pas où on va. Ne change, n'avance que ceux-là qui savent où ils sont en train d'aller. Recréer la vision dans les jeunes. Montrez-leur qu'il faut dire ce que vous allez devenir, il faut dire ce que vous allez être dans chaque domaine. La deuxième stratégie, il faut taper fortement sur la confiance en soi. Les jeunes doivent comprendre qu'en fait, il n'existe pas pour rien. Il y a une raison qui fonde l'existence de tout un être humain. Il y a une raison pour laquelle vous existez sous cette terre. Et donc, pour arriver à croire en vous, pour arriver à affronter, ce veut vous dire, j'existe aussi pour devenir. J'existe aussi pour rendre. J'existe aussi pour transformer. Le troisième élément, c'est finalement cette question de se dire, par où je commence? Tout le monde veut commencer parce que on a donné. Mais je suis revenu sur des exemples vivants en disant, vous êtes le fond de démarrage. Vous êtes le potentiel de départ. Attention, c'est bien beau de dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, pour que les gens se développent? Il n'y a rien à faire pour les jeunes. Il y a à dire aux jeunes, vous êtes le potentiel, vous êtes le capital dans lequel vous devez vous-même investir pour avancer. Et 4e dimension, ce sont les valeurs. Je suis revenu beaucoup sur les valeurs parce que, il ne suffit pas de dire, oui, je vais gagner, je connais comment il faut créer une entreprise, je connais comment je peux me former. Mais ce qui développe, madame, un pays, ce ne sont pas seulement les intelligences. Je crois beaucoup aux intelligences. Mais par contre, ce qui va vous pousser à aider les autres, ce qui va vous pousser à construire pour les autres, ce sont les valeurs. Je suis parti de l'intelligence émotionnelle, en passant sur des compétences, notamment l'empathie, notamment les traits de caractère du leadership, notamment l'intégrité, l'honnêteté, le sacrifice de soi, la fidélité. Ce sont des traits de caractère, mais pour moi, ce sont des valeurs sur lesquelles la jeunesse actuelle doit baser son avenir et doit mettre son paradigme de développement.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
L'invité de la rédaction, Dr Michel Mouvoudi, a été interrogé à Bukavu par Rachel Kessimbangu. Fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence de la paix, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung. Mimi Kindou, la mise en onde, et grâce à Mzati Masanzi, était à la présentation. Vous avez la possibilité de les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci.